Radio Kapi. Le journal vous est présenté par Lievin Mbwinga.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Kapi pour vous informer. À la une de l'actualité, absence des agents des services publics du Nord Kivu à Beni. Le gouverneur vient de frapper dur. Ils sont mis d'office en congé technique. Raison évoquée par le général-major Évariste Somokakule, la rationalisation de la gestion du personnel sous son autorité. Nous allons décortiquer cette circulaire et vous proposer des réactions sur place. Et puis ces chiffres alarmants, plus de 10 millions de morts ces dernières décennies dans la crise de l'Est de la RDC. Révélation hier de Félix Tshisekedi, le chef de l'État s'exprimait à l'ouverture de la table ronde à Kinshasa sur l'appropriation du génocide. Détail dans ce journal. Dans cette édition également, ce palmarès inquiétant au Maniema. Cette province est la deuxième avec enfants n'ayant jamais eu de vaccin. Pourquoi des enfants non vaccinés au Maniema? Réponse avec Dr Walumba Omari. Il est chef d'antenne du PEV Kindu et surtout notre invité. Encore une fois, bonjour. Je le disais en titre, tous les cadres et agents des services publics de la province du Nord Kivu, non encore à Beni, chef lieu provisoire de la province, mis d'office en congé technique. La nouvelle est tombée hier lundi et pour cause, la rationalisation de la gestion du personnel sous l'autorité du gouverneur, le général-major Évariste Somokakule. En tout cas, c'est ce qui ressort d'une circulaire rendue publique hier lundi par le gouverneur du Nord Kivu. Aussitôt rendue publique, cette mesure n'a pas été reçu évidemment d'une bonne oreille par la population locale. Les acteurs locaux pensent que cette décision frise une sanction contre les agents de l'État restés à Goma. Ces derniers ne devraient pas être sanctionnés pour cause de force majeure, déplore-t-il. Plus de détails avec Sifa Magoro.
Le général-major Somokakule Évariste indique que c'est dans le cadre de la rationalisation de la gestion du personnel sous son autorité et compte tenu des contraintes budgétaires inhérentes à l'occupation d'une grande partie de la province du Nord Kivu par le RDF AFC M23. Les obligations réciproques du travailleur et de l'employeur sont suspendues pendant cette période de congé technique, poursuit cette décision. Néanmoins, les cadres et agents n'ayant pas fait allégeance au M23 continuent de bénéficier de la prise en charge médicale. Cependant, la dite mesure suscite déjà plusieurs réactions. Différents acteurs locaux estiment que cette décision de l'autorité sacrifie les agents publics qui n'ont pas pu se déplacer vers Beni. D'autres observateurs affirment que l'autorité donne l'impression qu'il n'y a plus espoir de récupérer les villes occupées alors que la population n'est pas responsable de cette situation de force majeure. Cette décision n'a pas tenu compte des réalités locales, tous les agents de l'État n'étant pas en mesure de se déplacer vers Beni avec leur famille sans aucune garantie du logement, des prises en charge, des scolarités de leurs enfants et bien d'autres préoccupations, regrette la population.
L'actualité, c'est aussi cette nuit de terreur vécue dimanche, hier lundi à Goma. Elle a été en effet très agitée et perturbée par des coups de feu nourris, rapportent les habitants de plusieurs quartiers de la commune de Karisimbi. La même source parle de 3 corps sans vie retrouvés au lendemain de cette nuit agitée, donc hier lundi matin, des personnes tuées par balles. D'autres précisions avec Élise Kavira.
Le premier meurtre a été enregistré sur l'avenue Kasindi au quartier Katoy. Il n'est que 20h ce dimanche quand des individus portant des armes ouvrent le feu sur une dame qui est tuée sur le coup. Des témoins affirment connaître la victime. C'est une tenancière d'un restaurant de fortune réputé pour ses savoureux plats de manioc surnommé Sombe Kinono. Dans les voisinages de la maison communale de Karisimbi, on déplore cette disparition alors que les auteurs du forfait n'ont pas encore été identifiés. Le second corps est retrouvé gisant dans une mare de sang au quartier Mabanga Sud. Pour certains habitants de ce coin, ce sont les rebelles du M23 qui ont tiré sur la victime. Il était 2h du matin le même dimanche. Il s'agirait d'un criminel connu que la population aurait dénoncé et qui s'est retrouvé dans la ligne de mire des rebelles et leur soutien rwandais, puis abattu. Un cas similaire est également survenu dans la partie nord de la ville de Goma, à la lisière du territoire de Nyiragongo. Un autre corps criblé des balles y a été signalé. Une exécution signée M23, affirme des témoins. C'est une nuit de terreur pour les habitants de Kasika, Mapendo, Katindo, Majingo, Mikeno et bien d'autres quartiers de la commune de Karisimbi. Les coups de feu ont retenti jusqu'aux premières heures du matin d'hier lundi, renseignent des témoins.
Pendant ce temps, rien ne va aussi du côté du Sud Kivu où la situation économique reste critique, autant dans les zones sous occupation du M23 que dans celles encore sous le contrôle du gouvernement de Kinshasa. Sur les 8 territoires que compte la province, 4 seulement répondent encore à l'appel du gouvernement central, tandis que les 4 autres sont administrés par le M23 appuyé par l'armée rwandaise. Alors que les territoires contrôlés par la rébellion font face aux multiples exactions et de violations de droits de l'homme, ceux qui demeurent sous le contrôle de l'autorité légalement reconnue meurent de faim et des maladies faute d'accès aux produits de première nécessité. La ville de Bukavu, qui constitue un centre d'approvisionnement, n'est pas, hélas, épargnée. Elle est aussi asphyxiée. Depuis sa chute entre les mains du M23 appuyé par l'armée rwandaise, voici bientôt un mois et demi, Bukavu reste isolé de l'intérieur de la province avec toutes les conséquences économiques qui en résultent. Cas des territoires de Shabunda, Fizi, Uvira et Mwenga. On écoute ce défenseur de droits des consommateurs du territoire de Mwenga. Il décrit la situation au micro de Radio Okapi.
Dès la prise de la ville de Bukavu par la FCM23, la hausse de prix varie selon les milliers. Ici à Mwenga Centre, chef-lieu du territoire, sans toutefois parler de Kitutu Rouge, une bouteille de bière qu'on achetait à 5 000 francs, aujourd'hui c'est 11 000 francs. Un kilo de riz qu'on achetait à 2 000 francs, aujourd'hui c'est 5 000 francs. Un kilo d'haricots qu'on achetait à 1 500 francs, aujourd'hui c'est 4 000 francs. Un verre de sel qu'on achetait à 1 000 francs, c'est 2 000 francs. Un litre de l'essence qu'on achetait à 4 500, aujourd'hui c'est 7 000 francs. De Bukavu à Kilongute pour les taxis bis, 80 à 70 000 francs pour les taxis, 50 à 60 000 francs pour les bis. Manque de carburant, ça cause beaucoup de perturbations, connexions, RTL, Vodacom et Orange. Nous ne sommes plus ravitaillés par des produits pharmaceutiques.
Et puis, ce soutien de la MONUSCO au FRDC, dans une déclaration faite hier lundi à la presse à Bunia par le commandant de la force de la MONUSCO, il a indiqué, je cite, « La MONUSCO réitère son souhait de continuer à apporter son appui au FRDC dans le but de garantir la protection des civils en Ituri, une province en proie à l'activisme des groupes armés. » C'était après sa rencontre avec le gouverneur de province, le général Ulysse Gomez, qui séjournait en Ituri dans le cadre d'une tournée d'inspection des troupes onusiennes s'est félicité de la bonne collaboration entre les FRDC et les différents contingents déployés sur le terrain pour la protection des civils, notamment dans les zones affectées par les conflits armés. Le général Ulysse Gomez est au micro d'Ezekiel Mousalia.
Je suis ici pour parler avec les gouverneurs de l'Ituri pour continuer des opérations conjointes avec les FRDC et aussi también la formation des soldats de la FRDC dans la région de l'Ituri. C'est très important les opérations conjointes. Nous avons coordonné avec les FRDC toutes les opérations. Avec les gouverneurs, avec les FRDC sont très importants et nous avons mené le chapitre 7 pour protéger les populations avec les FRDC, avec les opérations conjointes. Je suis content de travailler avec les FRDC et les populations dans la région de Ituri.
Plus de 10 millions de morts ces dernières décennies, tel est le bilan établi par Félix Tshisekedi sur le rôle du Rwanda et notamment du M23 AFC dans les tueries des populations dans l'est de la RDC. Au cours du lancement hier lundi de la table ronde sur l'appropriation du génocide, le président de la République dénonce le génocide congolais qui, d'après lui, ne doit plus être ignoré. Le chef de l'État dit attendre de ses assises la construction d'une stratégie nationale efficace pour obtenir la reconnaissance internationale du génocide commis en RDC et pour consolider une paix durable au Congo. Les propos du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ont été recueillis par Michel Kifindangoy.
La République démocratique du Congo a une histoire riche, mais profondément complexe. Au-delà de son visage le plus connu, celui d'un pays aux ressources naturelles abondantes, se cache une réalité sombre, souvent méconnue, ou volontairement ignorée. Plus de 10 millions de vies humaines innocentes, brutalement fauchées par une violence systématique et cyclique visant des communautés entières. Face à ces crimes atroces, longtemps ignorés ou minimisés par la communauté internationale, la vérité commence enfin à émerger. Ces actes atroces, perpétrés directement ou indirectement par certains pays voisins, en particulier le Rwanda, à travers des forces négatives qu'ils créent, ne laissent plus aucun doute quant à l'existence d'un véritable génocide dans chacun de ces tragiques épisodes.
De nouvelles des consultations politiques, le collectif des associations des personnes vivant avec handicap, conduite par la ministre Irène Issambo, qualifie la guerre dans la partie est du pays de machine à fabrication des personnes vivant avec handicap. Elle s'est exprimée après avoir échangé hier lundi avec le conseiller du chef de l'État dans le cadre des consultations. Ainsi, tout Congolais est pris de compassion et de paix doit s'impliquer dans la quête de toute voie visant à mettre fin au conflit meurtrier qu'impose le Rwanda à travers ses supplétifs du M23, recommande-t-elle. Irène Issambo considère donc que les consultations en cours comme une des voies privilégiées pour atteindre cet objectif. On l'écoute au micro de Billy Ivan Lutumba.
Nous sommes pour le respect de la Constitution, nous sommes pour la paix dans notre pays. Vous savez que la République démocratique du Congo traverse un moment difficile avec la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs. Et avec ça, il y a augmentation de personnes avec handicap parce que cette guerre d'agression nous est imposée. C'est une guerre qui est devenue pratiquement une machine à fabrication de personnes avec handicap et nous voulons que cette guerre cesse. Voilà pourquoi nous sommes venus, nous nous sommes impliqués pour donner aussi de notre opinion parce qu'il faudra que le monde sache que les personnes avec handicap en République démocratique du Congo demandent la paix. Demande à ce que l'agression cesse et que tout le monde soit avec la RDC et surtout que toutes les couches sociales puissent se liguer derrière le président de la République et derrière le FRDC afin de combattre contre cette guerre d'agression et que nous ayons la paix et que nous puissions aborder le développement durable de notre pays.
Signalons qu'au cours de cette sixième journée des consultations politiques, de nouvelles figures, structures de la société civile, regroupements politiques de la majorité au pouvoir, tout comme de l'opposition dite républicaine, ont échangé avec le conseiller spécial du chef de l'État. Parmi les politiques, Jacques Kiabula, gouverneur du Haut-Katanga, Néné Nkoulou et Fifi Masuka de la plateforme AN ont également été reçus les confessions religieuses et la corporation des journalistes de l'UNPC. Un nouvel ouvrage vient d'enrichir nos bibliothèques. Il est intitulé « Africanie, voici comment je suis devenu chef de l'État ». Livre de 180 pages paru sous la plume de Matamba Lukasu, écrivain, ingénieur, chef de projet et passionné de poésie. Préfacé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquemain Chabani, cet ouvrage de 20 chapitres a été porté sur les fonts baptismaux hier lundi au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa. Cet ouvrage décrit un récit incisif et critique sur le régime dictatorial qui naît des rébellions avec le soutien de puissances occidentales. Selon lui, ces régimes continuent de maintenir l'Afrique dans un cycle de violence et de répression où des milliers d'enfants et femmes se retrouvent prises en otage jusqu'à ce jour. Matamba Lukasu en parle au micro de Jeff Opela.
C'est un livre qui parle de la guerre en Afrique. Il s'agit de l'histoire d'un enfant qui a été enrôlé dans un groupe rebelle très tôt et qui, par un parcours vraiment ensanglanté, finit par devenir chef de l'État. Le livre est en train d'insister sur le fait qu'au moment où nous sommes en train de parler de ce livre, 250 000 enfants sont encore enrôlés dans des groupes armés à travers le monde. Et une bonne partie de ces enfants-là sont chez nous, en République démocratique du Congo. Au moment où nous parlons, il y a encore des groupes rebelles qui attirent des enfants, qui forcent les enfants, qui enrôlent les enfants. Et cette situation-là doit changer. Au-delà de tout ça, ce livre pose des questions réelles sur les pouvoir en Afrique. Africani, c'est un mot que nous avons créé, qui en réalité signifie jusque-là la manière dont se font et se défend le pouvoir en Afrique. Nous avons été habitués à des guerres dites de libération. Le MLC est passé, les RCD, les CNDP, les M23-1, M23-2. Finalement, la bonne question à se poser, c'est, même en acceptant par absurde que ces guerres-là étaient réellement des guerres de libération, la bonne question à se poser, c'est que combien de fois nous allons être libérés.
Deuxième livraison de notre série de reportages sur les embouteillages de Kinshasa à présent. Dans ce numéro, notre reporter nous fait vivre le calvaire que connaissent les habitants de Mbanza-Limba vers le campus de l'université de Kinshasa pour arriver au centre-ville. À en croire les habitants de cette partie de la capitale, au lieu de moins d'une heure pour parcourir cette distance de plus de 15 km, les usagers de la route perdent entre 2 à 5 heures du temps dans les embouteillages selon les jours. Michel Kifindangoy a parcouru un tronçon en covoiturage entre l'université de Kinshasa et le rond-point Sosimat avec un travailleur quinois. Suivez son reportage.
Parti de l'intendance générale à 5h30, nous avons dû affronter avec Aman Youdi plusieurs bouchons, notamment sur Salongo, Lembassou-Région, Limété, Sendwe 24 et Chaoumba, pour arriver à Sosimat à 8h27. Témoignage d'Ama Youdi.
Si je dépasse 5h30, vous avez déjà tout un bouchon, donc on ne sait plus, il faut sortir à 4h. On arrive sous région, vous pouvez perdre 10 à 15 minutes déjà, parce qu'il faut fouiller tous ces nids de poules et tout. Et après, quand vous entrez le boulevard Lumumba, ah là, c'est la totale vraiment.
Le plus grand calvaire s'observe au retour, avec de bouchons presque sur chaque tronçon. Il nous a fallu donc plus de 4 heures, soit entre 17h et 21h, pour parcourir les 16 km qui séparent Sosimat et Intendance.
Les retours là même. Déjà par exemple par rapport à moi déjà vers Chaoumba là pour ressortir à Sanef, tu peux pas perdre aussi une heure. Boulevard Sende, ces fameux endroits là, tu te rends compte que tu peux avoir quitté le service 17h mais tu arrives à la maison 20h, 21h.
Et c'est chaque jour que les Quinois doivent affronter cette triste réalité qui leur fait gaspiller non seulement le temps mais aussi le carburant et l'énergie.
Actualité internationale.
Les présidents français Emmanuel Macron et algérien Abdelmadjid Tebboune ont acté ce lundi, lors d'un échange téléphonique, une relance de la relation entre leurs deux pays après des mois de crise, avec une reprise de la coopération sécuritaire et migratoire, selon un communiqué commun.
L'invité.
La province du Maniema est la deuxième province après la Tchopo ayant un taux élevé des enfants 0-12, c'est-à-dire des enfants qui n'ont jamais eu de vaccin. Les autorités sanitaires exhortent les parents à accorder plus d'importance à la vaccination de leurs enfants et de bien garder leur carte de vaccination. Pour en parler, nous recevons Dr Walumba Omari, chef d'antenne du programme élargi de vaccination Kindou, qui s'entretient ici avec Florence Kizalunga.
Docteur Walumba Omari, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Plus de 30 000 enfants du Maniema, 0 dose. Comment expliquer cela pendant que chaque mois et chaque semaine, il y a que des vaccinations, des routines qui se passent et même des campagnes de vaccination?
Madame, ces données-là, ce sont des résultats des enquêtes de couverture qui ont été menées sur toute l'étendue du pays. Ces résultats ont montré que le Maniema fait partie de provinces qui ont un grand nombre d'enfants 0 dose. Alors parmi les raisons évoquées, il y a notamment le fait que les mamans sont trop occupées à beaucoup de choses et elles n'ont pas vraiment le temps d'amener les enfants à la vaccination. On a également évoqué le fait que les sites de vaccination, des fois, se trouvent éloignés des domiciles de maman. Il y a également le fait que quand on a vacciné un enfant, l'enfant peut développer des effets secondaires. C'est ce qui fait que aussi par la suite, les mamans n'arrivent plus à amener les enfants à la vaccination. Il y a également l'ignorance. Il y a les parents ou les mamans qui ne savent pas vraiment l'importance de faire vacciner l'enfant. Alors, ne sachant pas l'importance, elles ne prennent pas, comment dirais-je, la décision d'aller faire vacciner l'enfant.
Ça se chante tous les jours et vous êtes conscient de ça. Qu'est-ce que vous faites alors pour que les enfants congolais du Maniema puissent aussi bénéficier de leur vaccin?
On n'a pas croisé le bras face à cette situation-là. Il y a un plan de réduction des enfants enfants 0 dose et sous-vaccinés qui a été élaboré à tous les niveaux. Et ce plan-là prévoit plusieurs activités qui doivent être réalisées. Parmi ces activités-là, il y a notamment la sensibilisation des leaders des associations féminines pour leur parler de l'importance de la vaccination.
Alors docteur, pour qu'un enfant soit déclaré complètement vacciné, il lui faut combien de rendez-vous ?
Pour qu'un enfant soit complètement vacciné, l'enfant doit répondre à 6 rendez-vous. Par rapport à notre calendrier actualisé, l'enfant doit se rendre au centre de santé 6 fois pour qu'il soit complètement vacciné.
Quels sont ces rendez-vous ?
C'est par exemple, à la naissance, on va lui donner un vaccin pour le protéger contre, par exemple, la tuberculose et contre la polio. À 1 mois et demi, pour la 2e fois, il va recevoir le vaccin pour le protéger contre la polio, la méningite, l'hépatite, le tétanos, contre les diarrhées. À 2 mois et demi. Cette fois-là, ça sera pour la 3e fois. Il doit se rendre encore au niveau des centres santé pour recevoir les mêmes vaccins-là. Ça sera la 2e dose de ces mêmes vaccins-là. Et à 3 mois et demi, c'est le 4e rendez-vous. Il doit aller encore au centre de santé pour recevoir toujours les mêmes vaccins, mais ça sera la 3e dose de ces mêmes vaccins-là que je venais de citer. Lorsque l'enfant réalise l'âge de 9 mois, cette fois-là, il va recevoir le vaccin pour le protéger contre la rougeole et contre la fièvre jaune. Par rapport à la rougeole, il va recevoir sa première dose de rougeole. Ça sera le 5e rendez-vous. Et il va attendre 15 mois. À 15 mois, ça sera maintenant le 6e rendez-vous. Et cette fois-ci, il va aller recevoir la 2e dose de vaccin pour le protéger contre la rougeole.
Et docteur, si l'enfant ne respecte pas les rendez-vous de l'âge, est-ce qu'il y a d'autres possibilités?
Maintenant, il peut arriver que l'enfant ne respecte pas ce calendrier-là, donc par rapport à l'âge. C'est comme ça qu'on a laissé une manœuvre où l'enfant peut avoir commencé la vaccination un peu en retard. Alors, il a la possibilité de recevoir tous ces vaccins-là avant qu'il n'atteigne l'âge de 2 ans, donc avant 24 mois. C'est comme ça que le calendrier vaccinal va jusqu'à 24 mois.
Alors, docteur, un message à toute la communauté.
Bon, le message, c'est que les enfants, s'ils ne sont pas vaccinés, ils sont exposés à développer des maladies et ces maladies-là peuvent les entraîner à la mort. Alors, c'est pour nous une occasion de lancer un appel vraiment pressant à tous les parents d'enfants de pouvoir amener leurs enfants au niveau des centres de santé pour que chaque enfant, avant qu'il n'atteigne l'âge de 2 ans, quel enfant-là puisse recevoir tous ces vaccins. Lorsqu'il est complètement vacciné, il est protégé contre plus de 10 maladies.
Docteur Walumba Omari, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Voilà, ainsi se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Pélé Kipé Labondo et à Polydor Basunga. Excellente journée à toutes et à tous.